Which side are you on, boys? Which side are you on? Which side are you on, boys? Which side are you on?
Which side are you on, boys? Which side are you on?
De retour dans le magazine. Il est très exactement 13h et nous sommes en compagnie de Liana et de Fanny de La Voix des Adoptés qui sont donc avec nous dans le studio. Donc là en première heure on a un petit peu abrégé cette émission, mais voilà, c'est des choses qui arrivent, on va en rediscuter. C'est vrai que des fois à la radio on est un petit peu pressé, puis on demande, on n'écoute pas, enfin voilà, il y a plein de trucs comme ça à réfléchir. Mais en tout cas dans cette deuxième partie d'émission on va commencer. On sera en compagnie donc Fanny qui est membre de La Voix des Adoptés à Toulouse, mais on va commencer par accueillir donc Liana qu'on n'a pas vue la semaine dernière. Salut Liana. Et hop là.
Salut, ça va?
Ok, ça va bien et toi?
Ouais, ça va. Moi, je suis un peu en burn-out des fois.
Ok. Tu veux nous en parler?
Tout à fait. Je vais vous en parler dans la chronique Les Humeurs de Liana numéro 4. Et je l'ai fait un peu rapidement, donc si c'est pas clair, vous pourrez réclamer une réclamation aux humeurs de Liana sur le podcast.
Très bien.
Voilà. Chers auditeurices, ce week-end, j'ai fait la marche des fiertés. Une marche pour dire la fierté d'appartenir à ce que nomment certaines personnes la mafia de l'alphabet. Car oui, nous sommes LGBTQIP et plus, et nous existerons jusqu'à ce que plus une lettre de l'alphabet ne vienne nous oppresser et nous minoriser. Mais, en attendant le grand remplacement, en attendant la disparition de l'hétéronormativité, nous vivons encore et toujours dans un monde patriarcal et raciste, qui domine et qui rejette tout ce qui n'appartient pas à la norme. Aussi, aujourd'hui, je voudrais vous parler du phénomène HSBC. H pour hétéro, S pour sexiste, B pour blanc et C pour cisgenre. Nous pouvons dire sans grande marge d'erreur que les hétérosexistes blancs cis sont à la tête du monde. Et ça me fait toujours halluciner, l'aplomb avec lequel ils s'affirment, la confiance avec lequel ils avancent dans la vie, en écrasant les autres, en prenant de la place, en violant, en toute impunité. Aujourd'hui, dans mon cours, je suis inscrite en master création littéraire à l'université Jean Jaurès de Toulouse, dans mon cours donc sur les littératures francophones actuelles, et plus précisément sur l'éco-poétique, il y avait un exposé. L'éco-poétique est un courant littéraire au sein duquel les écrivains replacent la nature au centre du monde, tentant de désanthropocentrer notre vision du monde. Ce sont souvent des écrivains occidentaux, donc pour la question de l'ethnocentrisme, on repassera. Ainsi, l'exposé d'aujourd'hui traitait d'un livre écrit par un homme blanc qui part quelques mois en Sibérie pour se retrouver. Il y dénonce notamment la société de surconsommation, la faute à l'être humain, selon lui. C'est drôle, l'universalisme, ça sert vachement lorsqu'il s'agit d'attribuer une responsabilité à la destruction de la planète et des écosystèmes. Durant 3 pages, il cite ses auteurs préférés, ceux qui l'ont influencé. Sur la 50aine de noms, seules 2 femmes existent. Voilà donc un livre écrit par un homme blanc, hétéro, cisgenre, pour un public également homme, blanc, hétéro, cisgenre. Au moment où G s'apprête à commencer son exposé en classe, je me lève pour aller chercher quelque chose sur la table voisine. La classe est silencieuse. G me regarde. La professeure me dit « Il t'a fusillé du regard !» Et lui de rétorquer en s'adressant à moi et en me regardant dans les yeux « Non, je te caresse du regard, de manière langoureuse. » Oh my god. Non seulement je ne veux pas exposer ton exposé de merde sur un homme blanc qui ne cite que des hommes blancs, mais en plus tu affirmes devant tout le monde ta prétendue supériorité sur moi. Non, le consentement ne s'arrête pas à la frontière physique. Non, tu ne peux pas caresser les gens du regard et le leur dire de manière offensive. Je fulmine et j'enrage, j'en ai ma claque et j'ai la flemme de parler de toi dans ma chronique, mais je le fais quand même parce que j'ai l'espace pour, donc je le prends. Merci, Canal Sol.
On sort en trombe, en ombre, on se déverse en plaine, en centaines, en millions, en milliards ou en millièmes de quelques simples gouttes. À des marées humaines, des jaillissements d'aurore, pour éclairer des emblèmes, des lanternes dans la tête. Si l'on plonge dans les ténèbres, on nous appelle PD, blancos, bougnoules ou bien nègres. On vit dans la riposte, on réfléchit après coup, On vit extramuros, donc on arrive par vos égouts. Nous sommes des cargaisons de femmes voilées, des you-you stridents, des rastas, des casquettes tournées, des voyous prudents, des espoirs accrochés, des paradis assassinés, des parents épuisés, enfantant des gosses méprisés, de la marmaille bruyante, des petits morveux frisés, engraissés d'allocations qui donnent des prétextes à voter. Trouver des boucs émissaires, les égorger pour l'Aïd, mourir dans une clairière sans treillis pour ce pays. L'affiche et couleur sang, les manouchiens, vient pas d'Auvergne, le tirailleur t'emmerde, il a fécondé ta grand-mère, on investit brognard, le dos mûr comme Jean-Pierre Thorne. On s'en fout du grand soir parce que la nuit c'est bien trop morne. On veut même pas de soleil, mais des éclipses pour faire l'amour, pour que l'instant soit bref, intense comme un fruit qu'on savoure. Aux arts miraculeuses, on a lu Césaire et Prévert. On viendra vous faire la guerre avec la parole poudrière. On désigne plus l'ennemi parce qu'il est partout, même en nous. On va mourir debout parce qu'on a vécu à genoux. On est sourd aux slogans élimés par trop de manifs. On devient arrogant, on veut rimer comme des canifs. On a plus 20 ans, mais on n'en aura jamais 60. Car on bouffe du bisphénol à l'heure d'une planète suffocante. On fait de nous des enfants pour nous interdire des luttes. Donc mon pan Peter Pan va redevenir adulte. On a coincé nos rages entre le mérite et l'héritage. Et les puissants confisquent ce que les pauvres se partagent à leur chaise musicale. Personne ne joue, personne s'assoit. On occupe du terrain, être indigné, ça va de soi. Angela qui prend le choix pendant que ton papa est bien là. On va ouvrir les portes de Soledad ou Attica. Pharmacodépendant des OGM pour nous doper. J'ai recraché l'assiette, monté le cheval et galopé. Braqué un RER, diligence, la pache de Belleville. Viendra crier vengeance comme Balavoine arrive en ville. Ils veulent nous assigner des places et nous faire saigner. Les amoureux au banc public n'arrêteront jamais de s'aimer. Depuis que nos tchèques ressemblent à des poignées de main de montoir, on ne laissera personne parler au nom de nos espoirs. On n'est pas des victimes, encore moins des condamnés. On arrivera de l'aube en éruption spontanée.
De retour dans le magazine, il est bientôt 13h et 10 minutes. Et aujourd'hui, donc il y a Fanny de Lefèvre de l'association La Voix des Adoptés Toulouse qui est avec nous en studio et on va parler de l'adoption. Alors bon, c'est vrai qu'on en discutait un petit peu hors antenne. Aujourd'hui, il y a l'adoption. En général, il y a ce qu'elle est et il y a aussi des fois où il y a des trafics d'enfants et des adoptions illégales. Pour rappel, en octobre 2007, rappelez-vous, vous avez peut-être suivi ce qui s'était passé, la police tchadienne a arrêté des membres de l'association L'Arche de Zoé qui s'apprêtait à embarquer 103 enfants dans un avion pour les emmener en Europe. L'association, elle prétendait avoir l'agrément du Haut Commissariat pour les réfugiés de l'ONU et des autorités tchadiennes. En réalité, les membres de l'association avaient menti aux parents sur leurs véritables intentions, leur projet d'emmener les enfants vers l'Europe. À l'époque, ils avaient été condamnés par au Tchad, et puis finalement, il se trouve qu'ils avaient été rapatriés en France et qu'ils avaient eu de la prison en France, voilà. Mais que l'association avait fini par être dissoute en 2013. Alors cette histoire-là, pour moi, mais peut-être que je me trompe, elle me faisait un petit peu écho avec l'histoire d'une association qui s'appelle l'association Rayon de Soleil de l'Enfant Étranger. C'est une association française d'adoption d'enfants à l'étranger, notamment au Mali et au Pérou, si je ne dis pas de bêtises, qui est accusé à son tour d'avoir mis en place des adoptions illégales. Du coup, c'est peut-être de ça dont on va parler, puisque l'association dont vous faites partie a déposé une plainte en juin dernier contre cette association Rayon de Soleil de l'Enfant Étranger. Mais peut-être pour commencer, est-ce que vous pourriez présenter cette association de la Voix des Adoptés ?
Oui, alors déjà, bonjour à tous. Donc, je suis Fanny, référente de l'antenne Toulouse pour la VDA, donc la Voix des Adoptés, ici à Toulouse et pour la région Occitanie. La Voix des Adoptés, c'est une association qui existe depuis une quinzaine d'années environ, qui a été créée à la base par trois adoptés du Pérou. L'objectif de cette association était d'abord de faire des rencontres entre adoptés pour pouvoir échanger sur son expérience en tant que personne adoptée. Au fur et à mesure, donc l'organisation s'est étendue. Maintenant, il y a plusieurs antennes, une à Lille, une à Paris, une à Toulouse, une à Tours, une à Lyon, une à Nantes et une à Marseille. Et on est aussi organisé en ce qu'on appelle des cellules. Donc les cellules, c'est vraiment pour le pays. Donc on a les adoptés du Brésil, les adoptés du Sri Lanka, les adoptés du Vietnam, les adoptés Afrique pour mélanger vraiment tout le continent africain, les adoptés de la Colombie. Et ces cellules organisent des événements pour justement permettre, avoir la possibilité aux adoptés de se rencontrer et de pouvoir partager la culture de leur pays d'origine et leur expérience par rapport à leur pays d'origine. Et pour rebondir concernant l'affaire de l'Arche de Zoé ou même de Rayon de Soleil de l'enfant de l'enfant. Effectivement, c'est une plainte portée par neuf personnes adoptées du Mali qui se sont réunies et qui portent plainte contre ce qu'on appelle une OAA, donc un organisme agréé à l'adoption. Donc c'est un agrément donné par le ministère des Affaires étrangères. Donc c'est une association qui a la possibilité de pouvoir permettre d'être le prestataire, l'intermittent pour les adoptions, pour des parents français qui veulent adopter des enfants à l'étranger. Donc il en existe plusieurs et plusieurs OAA qui permettent l'adoption dans différents pays. Ça peut être soit Haïti, soit le Vietnam, soit plusieurs pays sur différents continents. Donc là, ces neuf Maliens ont porté une plainte qui malheureusement a été classée sans suite et une deuxième plainte a été portée effectivement au mois de juin et la VDA s'est constituée partie civile. Nous, depuis le début, on accompagne ces neuf personnes dans toute la procédure de la plainte, puisque la VDA est aussi partenaire avec une association qui s'appelle l'AADH. Donc, c'est une association d'avocats pour les droits de l'homme. Et effectivement, l'affaire est toujours en cours au niveau de la justice. Et ces neuf personnes portent plainte puisque... pour eux, l'association Rayon de Soleil n'a pas respecté les lois maliennes et dans la loi du Mali, l'adoption plénière n'existe pas. C'est plus ce qu'on appelle une adoption protection, c'est-à-dire que des enfants maliens peuvent être confiés pendant un certain temps à des personnes d'origine étrangère, mais en aucun cas les personnes d'origine étrangère, donc là en l'occurrence des parents français, devrait avoir la possibilité de transformer l'adoption en une adoption plénière et en faisant que l'enfant devienne affilié aux parents en français et perdre leur affiliation avec leur famille d'origine. Et c'est surtout ce type d'adoption, c'est plus un placement temporaire qu'une adoption pour la vie.
Du coup, ouais, adoption plénière, est-ce que tu pourrais définir un petit peu de quoi on parle ?
Bien sûr. Donc, il existe deux types d'adoption, l'adoption simple ou l'adoption plénière. L'adoption simple, c'est quand un couple ou une personne adopte un enfant sans changer la filiation. C'est-à-dire que cet enfant est déjà l'enfant de deux personnes. Et par exemple, on va prendre monsieur et madame Dupont, ont un enfant, et monsieur Duchemin, le couple Duchemin, veut adopter cet enfant. Donc ça sera une adoption simple, c'est-à-dire que l'enfant garde son affiliation de Dupont, tout en étant sous l'autorité parentale de la famille Duchemin. Et au niveau de la loi, l'enfant a les obligations pour ses parents adoptifs, mais aussi pour ses parents de naissance. Et les parents de naissance et les parents adoptifs ont des obligations envers cet enfant. Et au niveau de la filiation, donc ça, rien ne change. Alors que l'adoption plénière, la plupart du temps, c'est pour des adoptions internationales, mais ça peut être aussi des adoptions plénières d'adoption d'enfants du conjoint, par exemple. Donc l'adoption plénière, toujours en reprenant l'exemple de la famille Dupont et la famille Duchemin. Donc monsieur et madame Dupont mettent leur enfant à l'adoption, la famille Duchemin adopte l'enfant, l'enfant change de nom et devient l'enfant Duchemin et devient entièrement dans la filiation, donc dans l'arbre généalogique et la filiation, l'enfant Duchemin et coupe la filiation avec la famille Dupont. Il n'a vraiment plus rien à voir avec cette famille et il n'a plus aucune obligation envers cette famille. Il est à part entière un membre de la famille Duchemin.
Donc, merci, c'est très clair comme ça. Et peut-être que selon les pays, par exemple en France et au Mali, les conditions de ces différentes formes d'adoption ne sont pas les mêmes, d'après ce que j'avais compris.
Exactement. Donc, au Mali, la loi qui est une loi qui date depuis très longtemps et qui n'a pas été révisée permet juste ce qu'on appelle une adoption protection. Donc, mettre un enfant sous la protection d'un autre couple le temps que la famille au Mali aille mieux ou redemande l'enfant. C'est comme, on va dire, un placement de sécurité, mais en aucun cas, l'enfant peut devenir à part entière dans la filiation de la famille qui l'héberge et qui prend soin de lui pendant un temps. Sauf que ce qui est très compliqué, c'est que mais parfois les personnes qui adoptent, les parents adoptants ne sont pas au courant de toutes ces spécificités au niveau des lois du pays. Et même les juges qui prononcent les adoptions ne sont pas forcément aussi eux au courant. Ou pour l'intérêt de l'enfant, ils considèrent que le mieux, c'est de vraiment couper tous les liens et de faire que l'enfant reste à part entière dans la famille qui a sa protection ou demande son adoption.
Ok, oui. Et c'est vrai que quand on se plonge un petit peu là-dedans, on se rend compte à quel point, là, en ce moment, on écoute pas mal de podcasts où c'est les enfants adultes adoptés qui prennent la parole. Et évidemment, c'est super important d'avoir leur parole, mais en fait, quand on creuse un peu, on se rend compte qu'en fait, il y a aussi les parents, on va dire, parents biologiques, il y a aussi peut-être les familles adoptantes, enfin, c'est plusieurs histoires, en fait, qui... Mais peut-être qu'on va reprendre un petit peu, justement, avant d'y entrer, par le début, en prenant cet exemple de ces adoptions au Mali, de la fin des années 80 jusqu'au début des années 2000 par cette association, enfin par l'intermédiaire pardon, de cette association Rayon de Soleil de l'enfant. Donc aujourd'hui, les enfants qui ont été adoptés au Mali sont adultes, on va dire, ils ont environ la trentaine. Comment c'est arrivé en fait? Ils se sont rendus compte, il y en a un certain nombre qui se sont rendus compte, soit qui avaient été contactés par leurs parents, soit qui ont lu des coupures de presse, ou en fait ils se sont rendus compte que leurs parents au Mali avaient fait des démarches pour les chercher ou... Est-ce que tu pourrais dire quelques mots sur justement la manière dont ça s'est passé, le début de cette histoire?
Oui, alors effectivement, les 9 Maliens qui se sont regroupés pour porter plainte sont 9 personnes qui, à la base, ne se connaissaient vraiment pas, qui vivent dans les 4 coins de la France. Et tout a commencé quand, effectivement, il y a eu un reportage concernant des familles au Mali qui, justement, étaient en mal dans leurs enfants perdu ou adopté. Et une des personnes qui regardait ce reportage a vu une photo de lui. Et où une femme malienne disait « Mon enfant, je l'ai perdu dans les années 80-90. » Et en fait, il s'est vu. Il a une photo de lui où il s'est vu. Donc effectivement, il a commencé à se poser des questions. Pour d'autres adoptés, c'est en commençant leur recherche d'origine qui se sont rendus compte que leur acte de naissance était faux, que certains papiers n'étaient pas corrects ou il n'y avait pas de cohérence dans les informations dans les papiers. Et au fur et à mesure de faire des recherches et grâce aux réseaux sociaux, ils ont pu se contacter, rentrer en contact tous ensemble. Et le point commun, c'est qu'effectivement, ils viennent tous, ils ont tous été adoptés par l'intermédiaire de la même association.
Mais de manière illégale, du coup ?
Alors, il y a un énorme vide juridique en France qui fait que actuellement, une adoption illégale n'existe pas légalement, puisque à partir du moment où des parents de toute bonne foi, hein, des parents qui veulent adopter des enfants, qui vont dans n'importe quel pays, Mali, Haïti, n'importe, font les démarches de leur côté de manière très légale, puisque faire une demande d'adoption, il y a quand même une procédure à suivre. Les parents doivent faire ce qu'on appelle une demande d'agrément, c'est-à-dire demander un document au conseil départemental du département dans lequel ils sont résidents pour avoir cette autorisation d'adopter. Il y a toute une enquête qui est faite sur ces personnes qui souhaitent adopter pour savoir si justement ils sont à même de pouvoir adopter, de voir aussi quel type d'enfant ils veulent adopter, suivant l'âge, suivant les particularités de l'enfant, s'ils peuvent accueillir un enfant avec une particularité physique, avec un handicap physique ou mental, plus ou moins lourd, plus ou moins... Et on peut vraiment donner les spécificités de ce que les parents pensent pouvoir faire pour un enfant. Et il faut aussi savoir que l'adoption, à la base, c'est une mesure de protection pour l'enfant. Et qu'il faut toujours prendre l'adoption pour l'enfant comme l'intérêt supérieur de l'enfant. Qu'est-ce qui est le mieux pour l'enfant ? Est-ce que c'est de rester dans sa famille, d'être placé un instant dans un foyer ou une famille d'accueil, ou de vraiment couper les ponts ? Parce qu'effectivement, suivant de là où il vient, que ce soit des adoptions en France ou des adoptions à l'étranger, parfois on sait qu'il y a des ambiances familiales qui sont très néfastes pour les enfants et il faut mieux les retirer de là. Donc, au niveau des parents en France, ils ont donc des démarches à faire qui sont déjà définies. Donc les parents en France font la procédure de leur côté légalement. Une fois qu'ils ont demandé cet agrément au conseil départemental et qu'ils reçoivent l'approbation du conseil départemental avec cet agrément, donc l'agrément ça veut dire oui, vous pouvez adopter, les parents peuvent soit faire ce qu'on appelle une adoption personnel, donc c'est-à-dire choisir le pays qu'ils veulent et puis prendre un avocat, prendre des contacts dans le pays qu'ils veulent et prendre un enfant et ensuite finaliser tout ça avec un avocat, un juge, ou ils peuvent passer par donc une OAA, donc une association qui a eu un agrément donc aussi légal par le ministère des Affaires étrangères pour permettre les adoptions et demander à cette association de faire les démarches pour eux, puisque la plupart du temps, les associations ont des partenariats avec des orphelinats dans les pays, faire les démarches pour justement, suivant les critères qu'ils ont demandé, trouver l'enfant qui ira au mieux avec leur demande et aussi ce qui est le mieux pour l'enfant, suivant ses particularités. Donc du côté français, les parents font tout légalement. C'est plutôt au niveau du côté de l'étranger où là, c'est là où il y a un défaut, parce que soit effectivement c'est des parents qui ne peuvent pas assumer leur rôle de parent et pas assumer les besoins même de l'enfant et proposent leur enfant à l'adoption en étant tout à fait conscients de ce que veut dire l'adoption et donner un meilleur avenir à leurs enfants, ou soit malheureusement, dans certains cas, c'est des enfants qui ont été volés à la naissance par des sages-femmes qui voulaient arrondir leur fin de mois, ou par des assistantes sociales qui voulaient arrondir leur fin de mois. Enfin, il y a plein de situations différentes où un enfant peut se retrouver dans un orphelinat de manière illégale. Mais donc il se retrouve dans cet orphelinat, l'OA est au courant ou n'est pas au courant du passé de l'enfant ou de comment il en est arrivé là, arrivé dans cet orphelinat, et l'OA propose cet enfant à ce couple français qui a fait toutes les démarches légales. Et donc du coup, l'enfant sort du pays, arrive en France, et les parents ensuite ont un an pour faire ce qu'on appelle une transcription, donc c'est-à-dire aller devant le juge des affaires familiales et demander ce qu'on appelle donc l'adoption plénière, donc l'affiliation de l'enfant pour que l'enfant rentre directement dans le livret familial et devienne leur enfant à part entière. Et du coup, tout ça est fait de manière légale, sauf que une fois que l'enfant est devenu adulte et fait ses recherches d'origine, mais il s'aperçoit que, par exemple, c'est un enfant qui a été volé à la naissance par une sage-femme, sauf que légalement, l'adoption, la transcription d'adoption, qui est quelque chose de légal, fait que l'adoption est légale, alors que c'est peut-être un enfant volé ou qui est arrivé dans des situations louches, mais l'adoption rend légal le fait d'être arrivé. Et comme il n'y a pas forcément de convention entre les pays pour savoir quel droit on applique, le droit français, le droit du pays d'origine, qu'est-ce qu'on fait, parce qu'en plus, c'est quand même, on découvre ça quand même 20 ans ou 30 ans plus tard, au moment de faire la recherche des origines. Donc entre-temps, parfois, les lois du pays ont changé, la situation aussi du pays a changé, et c'est là où il y a un vide juridique, puisque une adoption est quelque chose de légal, et tout ce qui s'est passé avant l'adoption, la transcription, ça l'efface en fait, ça... Et c'est comme ça qu'il y a un vide juridique, parce que le vol d'enfants par adoption n'existe pas. Alors qu'on parle de trafic d'êtres humains pour tout ce qui est prostitution, pour tout ce qui est pédopornographie, on sait qu'on peut effectivement voler des enfants et malheureusement se retrouver sur des sites pédoporno. Ça, internationalement, chaque pays a sa règle, a ses lois, et entre pays, ils peuvent collaborer pour justement retrouver un enfant qui a disparu et qui se retrouve malheureusement sur un site comme ça. Mais pour l'adoption, il n'y a pas de règle.
Je vous propose de faire une courte pause musicale et on revient juste après.
Que la cosa que me dice, que la cosa que...
De retour dans le magazine, il est 13h, bientôt passé de 30 minutes et nous sommes toujours en compagnie de Fanny de La Voix des Adoptés, de Liana et de beaucoup de personnes comme ça, le studio est bondé, c'est super, joyeuse ambiance. On a discuté dans la première demi-heure à travers le cas de cette association Rayon de Soleil, de la manière dont certaines adoptions pouvaient avoir été faites en dehors du cadre légal, non pas au niveau de la France, mais au niveau de l'association française dans le pays d'origine de l'enfant, à travers notamment un non-respect, par exemple, du droit du pays, à travers tout simplement un mensonge aux parents sur les conditions réelles dans lesquelles l'adoption et on va dire le cadre légal dans lequel l'adoption se fait. C'est des histoires qui sont assez terribles et on se demande mais quelles sont les motivations qui mènent à ça pour ces associations. Et bon, bref, du coup, on peut imaginer qu'elles sont pécuniaires quoi, pour ces associations qui tirent un profit de ce trafic.
Alors, je ne voudrais pas tirer des conclusions hâtives, donc ça peut être une des raisons, mais je ne peux pas l'affirmer complètement. Après, en ayant discuté avec des personnes qui géraient des associations, la plupart du temps, leur argument est dire que c'était pour le bien des enfants. Parce que c'est des enfants qui viennent quand même de pays, ce qu'on appelle pays du tiers-monde, pays sous-développés. Donc, c'est toujours mieux d'avoir un enfant qui se développe ici en France avec des parents plutôt que de vivre dans un pays où parfois il y a la guerre, parfois il y a la famine, parfois il y a des épidémies. Donc, il y a toujours cette excuse, en tout cas cet argument de « c'était pour faire le bien, c'est pour le bien des enfants, vous êtes toujours mieux ici que là ». Et effectivement aussi, les parents qui déposent les enfants, les parents biologiques qui déposent les enfants dans les orphelinats, parfois c'est ce qu'ils disent, c'est au moins pour donner une chance de survie à mon enfant, je le laisse à l'orphelinat, je le mets à l'adoption parce que moi je n'ai pas d'avenir ici. Et les gens pensent surtout à l'instant T, effectivement, ce sont peut-être une famille très pauvre, dans un pays très pauvre, enfin sous-développé ou très pauvre, et qui a déjà 4, 5 ou 6 enfants, encore un autre, donc pour permettre au moins à un de s'en sortir, on va le mettre à l'adoption. Donc parfois les gens mettaient les enfants à l'adoption sans penser à mal, mais sans comprendre que 30 ans plus tard, avec le changement des mentalités, l'adoption ne serait plus perçue comme avant. Parce que dans l'histoire de l'adoption, il y a eu plusieurs phases aussi. Pendant très longtemps, on faisait ce qu'on appelait de l'adoption humanitaire. Il fallait sauver le petit Biafré, il fallait aider le pauvre enfant suite à, je sais pas, un tremblement de terre dans un pays. Donc, toujours mieux de prendre un enfant et de l'amener en France dans un pays dit développé économiquement que de le laisser là-bas dans un pays qui, aux yeux de la culture occidentale européenne, est un pays dit pauvre ou dit sous-développé.
Mais bon, après, oui, en effet, et ça pose question sur, quand mensonge il y a, en fait, parce qu'à la limite, peut-être que là, dans le cas de la loi malienne, il y a cette possibilité d'offrir une protection à un enfant pendant une certaine durée. Donc, il y a tout à fait la reconnaissance qu'en fait, il peut y avoir le besoin pour un enfant ou pour une famille de confier l'enfant pendant le temps de son enfance, de son adolescence à une autre famille pour après peut-être quand même maintenir ce lien. Bon, mais après, bon, c'est très complexe et j'imagine que ça dépend aussi des situations. On parlait rapidement, sauf si tu voulais rajouter quelque chose là-dessus.
Ça me fait penser au scandale là, des années 70 quand l'État français a volé des centaines d'enfants À Mayotte et à La Réunion.
À La Réunion, les enfants de la Creuse.
Ouais, les enfants de la Creuse, pour peupler le Limousin.
Oui, oui, oui. Mais d'ailleurs, ils se sont réunis en association, en fédération. Donc, les enfants de la Creuse, ils ont attaqué l'État français et ils ont eu la reconnaissance de victimes par l'État français sans indemnisation pécuniaire. L'État français leur a proposé une statue à la sortie de l'aéroport Roissy pour rappeler justement ce qu'avaient enduré ces personnes. Mais par ma connaissance, le combat quand même continue, parce que maintenant que l'État français a reconnu ce défaut dans son histoire, il faut aussi maintenant pouvoir accompagner les personnes de manière psychologique. Et c'est le combat de cette Fédération des enfants de la Creuse. Parce qu'effectivement, reconnaître qu'il y a eu un défaut par l'État français, c'est bien, mais il ne faut pas oublier que ça reste quand même des personnes qui, la plus souvent, ont été dans des familles d'agriculteurs, où ils ont été quand même soumis à des sévices sexuels, physiques, mentaux, et ça, c'est des choses que les personnes vont garder avec elles toute leur vie, et suivant la situation financière de la personne, elle n'a peut-être pas les moyens de pouvoir avoir une aide psychologique, donc leur combat continue comme ça pour eux.
Et d'ailleurs, puisque tu évoques, on va dire, cette histoire des enfants de la Creuse qui a été du coup organisée par l'État français, ça me fait penser, parce que, bon, même si la préparation de cette émission n'est pas forcément parfaite, mais j'ai en fait, c'est parti aussi de la venue à Toulouse le 26 octobre prochain d'Amandine Gay, qui est réalisatrice du film « Ouvrir la voie ». Et du film Une histoire à soi qui sera projeté, je ne sais plus quand, à l'American Cosmographe.
Le 26 octobre.
Ah oui, c'est la même soirée, ouais.
Oui, la même soirée. Donc, Amandine Gay sera à la librairie Terra Nova pour son livre, Une poupée en chocolat, où elle raconte justement sa quête des origines. Et c'est suivi d'une projection à l'American Cosmographe de son dernier film.
Et alors, moi, j'ai pas pu lire le bouquin, mais sachez que sur le site du magazine Ballast, il y a des extraits qui ont été sélectionnés de ce livre, dans lesquels, notamment, Amandine Gay montre les racines coloniales de l'adoption. Alors, c'est en vérité, c'est assez dur de le lire parce que voilà, ben ça montre vraiment le je trouverai pas les mots, mais en tout cas la dureté et la violence des rapports coloniaux, mais en fait bon voilà, à travers l'exemple de l'adoption. Et je vais vous lire des extraits, ce sera plus simple. Donc c'est, on voit, c'est vraiment une étude historique, hein, et documentée qu'elle a faite. Donc, je cite, « On peut voir un lien de filiation entre l'esprit de la loi qui encadre l'adoption plénière en France et en particulier concernant les enfants étrangères et l'histoire des politiques assimilationnistes développées dans les colonies à partir de l'ère de la traite transatlantique. » Et ensuite, elle poursuit en disant « L'enfance est intéressante à cet égard, qu'il s'agisse de jeunes orphelins blancs, de jeunes indigènes, ensauvagés ou de métis, ensauvagée est entre guillemets, on la désigne comme une population entre guillemets désaffiliée, dont on peut alors se saisir pour la déplacer contre son gré et la mettre au service d'un projet de peuplement. Plus encore, l'enfance offre aussi la possibilité de forger une culture coloniale, qu'il s'agisse de former des jeunes colons à la condition entre guillemets blanche dans les colonies africaines ou d'acculturer de jeunes indigènes mis au contact de la culture dominante. Dans cette entreprise, l'éducation scolaire est souvent religieuse, occupe une place fondamentale car elle permet non seulement d'extirper un enfant de sa culture d'origine, mais de le faire adhérer à de nouvelles valeurs, le rendant étranger à sa propre culture. » Et donc elle montre notamment comment cette généalogie un petit peu de la gestion d'État, de l'adoption par la France, s'inspire notamment des Home Indians canadiennes qui visaient à ben voilà, comme elle le formule, et je ne saurais pas le formuler mieux qu'elle, à extirper des jeunes, des enfants de leur culture d'origine et de les faire baigner dans une culture coloniale. Et j'ai pas de questions et pas forcément de commentaires, donc vous pouvez réagir, mais c'est vrai que la violence est assez extrême, quoi. Enfin, mais c'est cool, elle le montre, hein, mais...
Oui, effectivement, comme je disais, il y a eu plusieurs phases dans l'histoire de l'adoption. Donc, l'analyse d'Amandine Gay n'est pas fausse, puisque on peut plus le voir pour l'histoire de la Belgique, notamment. Pour la France, moi-même, je ne sais pas, donc je ne pourrais pas trop commenter là-dessus. Mais j'ai déjà lu des thèses ou des rapports comme ça sur la Belgique qui effectivement prenait les enfants métis pour justement les ramener en Belgique. La Hollande aussi a fait pareil, où on prenait les enfants métis. Donc parfois c'était des enfants eux-mêmes issus malheureusement de viols entre colons et personnes africaines, et on les amenait en Europe pour en faire des Belges, des Hollandais, des Européens, puisqu'on pensait que, pareil, au moment de la colonisation ou même de l'esclavage et ensuite de la colonisation, que le mieux, c'était d'être blanc, d'avoir la culture blanche, et il fallait extirper effectivement ces enfants plutôt que qu'ils continuent à grandir dans la culture sauvage qui était perçue à l'époque. Ensuite, l'adoption a un peu changé et c'est à ce moment-là que c'est devenu plus une adoption humanitaire. Et maintenant, l'effet humanitaire commence enfin à passer et on commence plus à voir ce côté intérêt de l'enfant, où justement les parents sont plus formés et plus informés de comment mieux gérer son enfant, puisque à l'époque, moi par exemple, malheureusement mes parents en font partie, à l'époque où mes parents ont adopté, on disait que une fois arrivé en France, oubliez tout, oubliez le passé, la vie de l'enfant commence une fois qu'il arrive à Paris, quoi. Et alors que maintenant, on sait très bien que avec tout ce qui est recherche au niveau sociologique, mais aussi au niveau médical, que dès le fait d'être dans le ventre de sa mère, on a les sons, on a les goûts, on a plein de choses déjà de base. Ensuite, une fois né, on a le toucher, on a aussi toujours les sons, on a les odeurs. Et ensuite, une fois... Donc en fait... l'enfance se construit dès in utero, et même si on ne s'en souvient pas, mais ça reste de l'ordre du subconscient, et c'est des choses qui restent marquées dans la personne et dans la personnalité, et c'est pour ça que on vit, les enfants qui se font adopter vivent plusieurs ruptures, donc dès la naissance, d'abord la rupture avec la mère biologique, ensuite il est passé donc soit dans une pouponnière ou dans un orphelinat, mais il a aussi cette rupture une fois adopté avec l'orphelinat où il avait construit certaines habitudes, et ça fait plusieurs ruptures pour un enfant, pour enfin arriver dans une famille. Pour certaines personnes adoptées, suivant le subconscient ou suivant à quel âge elles ont été adoptées, elles s'en souviennent pas et ça peut passer très bien. Mais il y a d'autres personnes où, comme ça reste de l'ordre de subconscient, on a des actes ou on a des réactions parfois sur des choses qu'on comprend pas, mais en fait elles sont toujours là parce qu'elles ont toujours été en nous. Et pour d'autres, non, ils vont passer leur vie tranquille comme n'importe quelle personne avec ses expériences, qu'on soit adopté ou pas. On a tous une expérience de vie qui fait qu'on sera plus sensible sur un sujet, plus sensible si on nous dit quelque chose, plus sensible si on ressent quelque chose. Donc ça dépend. Il y a des personnes où ça reste vraiment très marqué chez eux, et pour d'autres qui peuvent le vivre mieux.
Yana, tu voulais rajouter quelque chose ?
Bah ouais, moi ça me fait penser aussi aux théories de l'attachement qu'on connaît depuis, en fait, récemment, mais qui montrent que le lien affectif que le nourrisson entretient avec la personne ou les personnes de référence, mais souvent une personne, est extrêmement important, et aussi important que la nourriture, ou que, enfin, c'est dans les besoins primaires, et donc effectivement la rupture, elle est hyper, elle peut être, je pense, elle est hyper violente, et après il y a le phénomène de résilience aussi, où où les êtres humains après se reconstruisent. Mais dans ce truc colonial un peu, j'ai l'impression que, vu que les pays dits développés se sentent tellement développés qu'ils ont l'impression que c'est mieux de justement de... Enfin, comme si une vie non occidentale valait moins, à tel point que, qu'on peut briser cet attachement-là, peu importe, au profit d'un, d'un confort économique. Alors que parfois, en fait, ça se passe pas très bien, même au niveau affectif et tout, des fois, dans les familles adoptives. Après, je suis pas une personne concernée, mais du coup, je, c'est ce que je peux observer et du, enfin, dans ce rapport colonial-là. Comme si il valait coûte que coûte mieux vivre en Europe ou en Occident que dans d'autres pays.
Mais là, du coup, ce dont on parle, c'est que peut-être il y a eu des changements par rapport à cette doctrine-là, de, on va dire, de la rupture totale. Comme tu disais, la vie commence à Paris. Il y a des changements, mais alors il y a eu des changements même juridiques dans la possibilité d'accéder à son dossier. Puisque alors je sais pas trop de quand ça date, mais il me semble que il y a un certain nombre d'années, il était même impossible pour l'enfant de pouvoir faire ses démarches de recherche d'origine. Et aujourd'hui, c'est le cas. Il y a ces droits en fait qui ont été ouverts aux enfants adoptés.
Alors là, c'est plus pour les enfants nés en France, ouais. Cette loi-là. Après, pour les enfants adoptés à l'international, eux, ils ont toujours eu la possibilité de faire leur recherche d'origine. Ce dont tu parles, c'est ce qu'on appelle le CNAOP, C-N-A-O-P, qui permet aux enfants qu'on appelle nés sous X vulgairement ou nés sous le secret de pouvoir faire la recherche des origines ou du moins d'avoir accès à au peu d'informations qu'il y a dans leur dossier pour savoir au moins qui était leur mère biologique. Et encore, je pense, de mon avis, il y a encore beaucoup de progrès à faire. Et il y a d'autres associations, justement, des associations de personnes nées sous le secret et qui ont été rejointes par aussi des enfants nés sous PMA pour justement avoir accès à leurs origines. Parce que pour, en tout cas, la problématique des enfants nés sous le secret en France, eux, ils ont accès à rien du tout. Donc, c'est-à-dire, ne connaissent pas le, ils n'ont pas accès au, ce qu'on appelle aux notions identifiantes, donc nom, prénom, adresse. Mais parfois, ils n'ont pas aussi accès au ce qu'on appelle aux données non identifiantes. Donc, par exemple, la couleur des yeux, la couleur des cheveux, quoi que ce soit. Mais ils n'ont aussi pas accès à tout ce qui est antécédents médicaux. Donc, on ne peut pas savoir si, je ne sais pas, dans leur famille, ils sont sujets au cancer, sujets à des maladies orphelines, sujets... Et c'est plutôt ça qui pose problème, parce que, comme l'expliquait une fois Amandine Gay dans une interview qu'elle a faite à la télé, elle a eu des problèmes de santé, et la plupart du temps, quand on va chez le médecin nous demande tout le temps « Et vous avez des antécédents médicaux dans votre famille ?» Et bien là, on ne sait pas. Et les adoptés nés sous le secret ne le seront jamais. Donc parfois, ça peut vraiment poser des soucis si ces personnes ont des graves problèmes de santé.
Ouais. Je propose de faire une petite pause musicale et après on reviendra pour peut-être continuer à présenter l'association puisque je crois que vous cherchez un peu plus de monde aussi pour venir.
Oui, c'est exact.
Bon, à tout de suite.
High above.
De retour dans le magazine de Canal Sud, il sera 14h dans 10 minutes, l'occasion pour nous de poursuivre et conclure cette discussion avec Fanny de l'antenne toulousaine de La Voix des Adoptés. Est-ce qu'on peut du coup revenir peut-être sur cette association? Là tout à l'heure hors antenne, tu évoquais la diversité des parcours et des positionnements des personnes qui composent cette association. Est-ce que oui, tu voudrais dire quelques mots là-dessus?
Oui, donc comme j'ai expliqué, La Voix des Adoptés, il y a plusieurs antennes en France, donc dont l'antenne de Toulouse. Après, effectivement, la majorité sont des adoptés internationaux qui viennent de partout dans le monde, Brésil, Mali, Pérou, des pays d'Afrique, des pays d'Asie, et aussi des adoptés de France, donc des personnes nées en France et adoptées. Donc chacun son parcours, chacun son histoire et ses expériences de vie, tout simplement. Mais notre but en commun, donc notre point commun, c'est d'être adopté. Et aussi, le but de l'association, c'est d'organiser des groupes de parole ou des activités entre adoptés pour pouvoir se réunir, échanger, discuter ensemble de notre expérience du point de vue d'adopté. Actuellement à Toulouse, donc je suis la référente, mais référente bénévole, mais je suis toute seule. Donc si vous souhaitez être bénévole, donc il n'y a pas forcément besoin d'être adopté pour être bénévole. Le but, c'est justement de pouvoir organiser des événements à Toulouse. On est aussi présent dans différents conseils institutionnels mis en place par l'État. Par exemple, La Voix des Adoptés est présente au CNPE, donc le Conseil National de la Protection de l'Enfance. On est aussi présent à la COFRAD, qui est un comité pour les droits des enfants. Et on travaille justement ensemble avec d'autres associations et d'autres personnalités, que ce soit des juges, des sociologues, des magistrats, des assistantes sociales, des personnes vraiment qui ont des domaines et une connaissance dans le domaine de l'enfance, pour justement parler de l'adoption, faire évoluer les lois et aussi parler des problématiques des adoptés au point de vue national. Donc on est assez connu au niveau national par les institutions. On a pu enfin se faire une place et se faire entendre, parce que malheureusement, quand on parle d'adopter, on parle d'enfants, et on oublie qu'un jour, on a 18 ans et on est des adultes, et on a aussi notre voix à faire entendre, et notre avis compte. Donc maintenant, effectivement, quand il y a des projets de loi ou des projets qui peuvent être assez conséquents sur l'enfance, sur les adoptés, on nous appelle pour être auditionnés et pour donner notre avis en tant qu'adopté. Et c'était un des buts de l'association, de se faire entendre. Aussi au niveau de l'association, donc on a un pôle qui s'appelle pôle advocacy. Donc c'est-à-dire qu'on s'occupe de justement parler un peu des adoptions illégales, comme on en a parlé, donc l'affaire du Mali, où on a accompagné ces 9 adoptés du Mali pour justement qu'ils essayent de faire quelque chose au niveau légal de leur adoption, avec donc notre partenaire la ADAH, donc les avocats internationaux des droits du droit de l'homme. Après, sinon, au niveau des activités, ça peut vraiment aller à juste aller boire un verre pour se rencontrer ou vraiment parler d'une thématique tous ensemble et se regrouper sur une thématique. On fait aussi des interventions auprès des associations des parents qui adoptent, des parents adoptants ou des parents adoptifs, donc qui s'appelle EFA. Donc c'est une fédération. Dans chaque département, il y a une EFA qui, donc c'est une fédération, donc c'est un groupement d'associations. Donc par exemple ici dans le 31, il y a EFA 31 pour les parents qui souhaitent adopter ou qui ont déjà adopté et qui veulent justement faire part de leur expérience ou qui ont besoin d'aide et d'accompagnement au niveau justement de leur adoption. Et cette association EFA donc permet de former en quelque sorte les parents sur les problématiques qu'ils pourraient rencontrer avec des enfants adoptés. Donc c'est-à-dire peut-être qu'un jour l'enfant voudra faire sa recherche des origines, pareil au niveau, on parlait de l'attachement, pourquoi l'enfant s'attache plus ou moins vite, les conflits qu'ils peuvent avoir, les questions que pourrait poser un enfant adopté, comment parler de son histoire à son enfant, qu'il n'apprenne pas à 30 ans qu'il a été adopté depuis l'âge de 2 ans, parce que j'en ai déjà vu des pauvres personnes qui ont appris à 30 ans à la suite d'un événement qui ont été adoptés. Enfin voilà, ils permettent en tout cas de changer le regard de l'adoption aux nouveaux parents qui souhaitent adopter et de justement expliquer que l'enfant a une histoire et qu'il faut accompagner son enfant dans cette histoire le mieux possible et pour que ce qu'on appelle faire une adoption réussie, donc c'est-à-dire pas se retrouver en rupture totale de lien avec son enfant à cause d'un conflit insolvable.
Très bien, du coup, et vous avez une adresse et un numéro, une adresse mail
Alors oui, on a une adresse mail, donc vous pouvez envoyer un mail à toulouse@lavoixdesadoptes.com. Et du coup, si vous avez une question concernant votre adoption ou l'adoption de votre enfant, on pourra vous aiguiller, vous conseiller, vous aider, il n'y a pas de souci. Et au niveau de l'adresse, on n'a pas forcément d'adresse, on est par contre à l'UDAF, qui est l'Union des associations familiales. Donc on a demandé notre adhésion à l'UDAF. Et l'UDAF se situe dans la rue Tarrère, qui est du côté du métro Jeanne d'Arc.
Super, merci. J'en profite, puisqu'on parle du droit des enfants, pour, en fait, il y a une association toulousaine qui s'appelle Cap d'Agir. C'est une association qui lutte contre les violences faites aux enfants et qui organise notamment des ateliers d'autodéfense pour enfants, en milieu scolaire notamment. Et c'est une association qui cherche des nouvelles personnes bénévoles pour faire des interventions en école. Si ça vous intéresse, il y a une réunion d'information qui est organisée lundi 18 novembre à 18h30 dans les locaux de l'association 11 rue des Cheminots. On aura bientôt l'occasion de les recevoir pour en parler. En tout cas, ben, merci beaucoup pour ta venue, pour la clarté de tes explications. C'est vrai que Liana le soulignait, c'est pas forcément notre point fort, la clarté.
Non, j'ai pas dit notre point fort, c'est pas là le point fort des intervenants que nous interviewons.
Oui, mais justement, moi je peux pas dire ça parce que c'est mes invités, tu vois, je vais pas les clasher.
Mais moi, c'est ma chronique, c'est le but de ma chronique, c'est le clash. Ouais. Donc,
D'ailleurs, si jamais tu peux aborder des thèmes positifs à un moment, je suis preneuse, quoi. Enfin, dans le monde dans lequel on vit, on n'est pas obligé de t'entendre aller à la radio, quoi. Mais bon, c'est un détail.
J'y penserai.
Merci beaucoup.
Merci Fanny.
Merci à tous.
Et quelque chose à rajouter ou
le prochain événement, donc si vous êtes intéressés, allez voir tous Amandine Gay, donc à la librairie Terra Nova le 26 octobre, qui sera suivi de sa projection de son dernier film à l'American Cosmographe.
Il n'y a plus de place pour la discussion à Terra Nova.
C'est sûr, il faut prendre ses places au cinéma aussi avant.
C'est une star, on peut le dire. Et du coup, peut-être qu'il y a... Par contre, demain, il y a une copine qui travaille à l'American Cosmographe qui sera sur le plateau. Donc, on lui demandera s'il y a encore des places pour la projection du film.
D'accord.
Bon, allez, on est déjà en retard. Merci à toutes et bon après-midi.
Merci.